Salut à toutes les sportives et les sportifs, bienvenue dans Planète Sport. Je suis Tristan Van Uxem, votre animateur aujourd'hui. On se retrouve pour notre épisode mensuel consacré au débrief des événements sportifs de ce mois d'octobre. Alors pour rappel, Planète Sport est un podcast créé par les Olympistes, un média étudiant consacré à l'actualité sportive. Aujourd'hui au programme, Eva Claudel revient sur les championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont eu lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines au début de ce mois d'octobre. Mathieu Delourd approfondira en se concentrant sur Marie-Divine Kouamé, championne du monde du 500 mètres sur piste, et son parcours pour arriver au sommet de sa discipline. Il l'a élue Olympiste du mois. On changera le nombre de roues avec Johanna Wexstein qui va elle aussi nous présenter son Olympiste de ce mois d'octobre. Et pour finir donc, nos footeux débattent sur les résultats du Ballon d'Or. Allez tout de suite, c'est l'heure du briefing.
Pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Attention,
dessus ! Non ! C'est pas possible !
Oh les gars, c'est l'heure du briefing.
Ce mois-ci a été marqué par les championnats du monde de cyclisme sur piste. Dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, lieu où se déroulera ces mêmes épreuves à l'occasion des Jeux de Paris, les Français ont réalisé, malgré quelques déceptions, un très bon bilan global, en finissant sur la troisième marche du podium avec 7 médailles, dont 3 en or. Son meilleur bilan depuis 2017. C'est ainsi de très bon augure pour espérer se parer d'or dans 2 ans. Les Olympistes vous débriefent tout ce qu'il ne fallait pas manquer. La plus grosse déception nous vient de Sébastien Vigier, médaillé d'or en Kérin au championnat d'Europe en août dernier. Pour rappel, le Kérin est une discipline de sprint sur 2 km, où les pistards sont en groupe derrière une moto faisant office de lièvre, jusqu'aux 600 derniers mètres où celle-ci s'écarte et lance le sprint final. Le Français a fini au pied du podium alors qu'il était pourtant l'un des favoris. Compétition noire pour le Français, qui quelques jours plus tard se fait éliminer dès les huitièmes de finale en vitesse, alors qu'il avait aussi remporté l'or au championnat d'Europe il y a 2 mois. Pour rappel, la vitesse est une discipline en 2 manches gagnantes, où les 2 coureurs sont côte à côte et c'est tout simplement celui qui passe la ligne en premier qui remporte la manche. Mais cette compétition a avant tout été un triomphe pour nos Français. Si l'épreuve de la vitesse n'a pas souri à Sébastien Vigier, il a sacré la jeune Française de 23 ans, Mathilde Gros. C'est la belle histoire de la semaine. Alors apprentie basketteuse de haut niveau, elle découvre le cyclisme sur piste par hasard à l'âge de 15 ans. Talent hors norme, elle rafle tout dès ses premières années junior, avec 3 titres mondiaux et 2 records du monde. Pourtant, à son entrée chez les seniors, elle peine à gérer la pression des grands rendez-vous, à l'image des Jeux de Tokyo, où elle termine à une anonyme 9e place en vitesse. C'était jusqu'à ce 14 octobre 2022, où elle réalise la compétition parfaite, en battant Emma Inze, double tenante du titre, en demi-finale, puis Léa-Sophie Friedrich en finale. Ce sacre a donné des idées à Marie-Divine Kouamé. Pour ses premiers championnats du monde, âgée seulement de 20 ans, elle remporte le 500 mètres en un peu plus de 32 secondes. La jeune sprinteuse succède donc à Félicia Ballanger, dernière Française sacrée championne du monde du 500 mètres, en 1999. Malgré que cette discipline ne soit pas au programme olympique, la Française a montré qu'il fallait d'ores et déjà compter sur elle en tant que sprinteuse dans 2 ans. Jamais 203, l'équipe de France est allée chercher une 3e médaille d'or grâce au duo français Donavant, Grandon et Benjamin Thomas sur l'américaine. Course de 50 km où le duo doit marquer le maximum de points, soit en faisant partie des 4 premières équipes à franchir la ligne d'arrivée lors des sprints organisés tous les 10 tours, ou en réussissant à s'échapper du peloton et prendre un tour à celui-ci. La performance de la semaine est aussi celle de l'Italien Filippo Ganna, qui a dominé la finale de la poursuite individuelle vendredi en établissant un nouveau record du monde. Mais la performance est d'autant plus grande, car celui qui est aussi champion du monde du contre-la-montre sur route en 2020 et 2021 est arrivé fatigué sur ces mondiaux après avoir battu samedi dernier un autre record, celui mythique de l'heure, en parcourant 56 km et 792 mètres sur la piste de Grange en Suisse. On finit cette chronique en mettant à l'honneur les championnats du monde de paracyclisme, où l'équipe de France a elle aussi brillé. Elle réalise le meilleur bilan de son histoire en finissant à la 3e place mondiale, avec 17 médailles dont 6 en or. En tête d'affiche chez les hommes, Alexandre Léauté, quadruple médaillé olympique à Tokyo 2021, a raflé 4 titres mondiaux et 1 médaille d'argent. Dorian Foulon, quant à lui, a décroché 5 médailles, dont 2 en or. Chez les femmes, Marie Patouillet a apporté 3 médailles, dont 2 en argent et 1 en bronze. Ces Français nous ont donné rendez-vous pour les Jeux Paralympiques, dans 2 ans.
« Merci beaucoup Eva, et ce sont en effet des résultats très encourageants pour nos athlètes en vue des Jeux Olympiques qui vont arriver très très vite. Il y a des grandes chances de médailles dans ces compétitions, il va falloir faire attention à tout ça. Allez, on enchaîne, c'est l'heure de l'Olympiste du mois et c'est Mathieu Delourd qui nous en parle.
Bonsoir Laurent, bonsoir à vous tous, c'est invité spécial.
La France est fantastique, grande jugador.
Allez, tout de suite, c'est l'Olympiste du mois.
Comme nous vous l'annoncions dans l'hebdomadaire Tour des Stades du 17 octobre dernier, la cycliste Marie-Divine Kouamé a été sacrée reine du 500 mètres contre la montre le 15 octobre. Elle est pour nous l'Olympiste du mois. Lors de ses championnats du monde sur piste, elle a en effet rapporté la deuxième médaille d'or à l'équipe de France au lendemain de l'exploit de Mathilde Gros. Pour les non-initiés, le 500 mètres contre la montre se compose de deux tours de piste. Les cyclistes passent un par un et celui qui couvre la distance le plus rapidement possible remporte la compétition. Rien de bien compliqué, nous diriez-vous. Et pour espérer s'imposer sur cette discipline, il faut allier force, explosivité et vitesse. Il faut, en d'autres termes, fournir un effort extrêmement violent. Au terme de deux tours de piste parcourus en 32 secondes et 835 millièmes, Marie-Divine Kouamé jette le vélo sur la ligne. Son départ jugé un peu particulier par les commentateurs lui permet d'entamer le second tour à quelques centièmes seulement de la chinoise Guo Yufeng. Plus redoutable encore sur le second tour, elle passe en tête et creuse l'écart, pour terminer avec le meilleur temps provisoire et plus de 3 dixièmes d'avance. Mais rien n'est fait. Il reste l'Allemande Emma Hinz. Celle-ci ne fait pas mieux. Elle termine à la deuxième place, à 216 millièmes de Marie-Divine Kouamé. Notre Française peut alors exulter et entonner une Marseillaise qui restera gravée dans sa mémoire et dans les annales du cyclisme sur piste. Marie-Divine Kouamé est née le 30 juillet 2002. Faites le calcul, elle n'a que 20 ans. Seuls les plus grands n'ont décroché de tels titres à cet âge-là et en catégorie élite. Mais ce n'est pas la première ligne de son palmarès. Marie-Divine Kouamé a aussi brillé en junior. En 2017, elle est championne de France de vitesse par équipe. En 2019, elle remporte, entre autres, le bronze sur le 500 mètres contre la montre au championnat d'Europe. L'année suivante, elle est vice-championne d'Europe de la distance et surtout championne du monde. Ce titre de championne du monde, élite cette fois, décroché le 15 octobre, marque le début de sa carrière chez les grandes du 500 mètres contre la montre. Au-delà d'être très jeune, Marie-Divine Kouamé est une athlète noire. Rien de gênant ou de troublant, nous diriez-vous, mais pour la cycliste française, ça n'a pas toujours été évident. À l'âge de 11 ans, alors qu'elle s'entraînait déjà sur piste, elle subissait des remarques racistes. Elle a récemment témoigné dans le livre « Black Champions in Cycling » de Marlon Lee Moncrieffe. Elle dit, je cite, « À l'époque, je ne savais pas que c'était du racisme. Je n'avais même pas conscience d'être différente. C'est à l'âge de 11 ans, suite à ces insultes, que j'ai compris le racisme. » Ce livre, riche en illustrations, est, selon le site Rafa, une collection d'histoires explorant l'expérience noire du cyclisme de compétition. S'il y a eu des avancées depuis les dernières décennies et que les consciences s'éveillent progressivement, il manque encore un petit quelque chose. Il faut que les insultes racistes cessent dans les stades et les vélodromes. Il ne faut plus que la couleur de peau devienne une barrière pour débuter un sport, surtout le cyclisme, très pratiqué par les Blancs. Le chemin pour un sport sans racisme est donc encore long. Mais c'est avec des parcours et des titres tel que celui de Marie-Divine Kouamé, que l'espoir renaît.
Merci beaucoup Mathieu. Allez, on enchaîne maintenant, c'est au tour de Johanna Wexstein de nous présenter son Olympiste du mois à elle. Et il me semble qu'on va passer de 2 à 4 roues, Johanna, c'est à toi.
Bonsoir Laurent, bonsoir à vous tous, c'est invité spécial.
La France est fantastique, grande jugador.
Allez, tout de suite, c'est l'Olympiste du mois.
On reste sur les pistes, mais en asphalte cette fois. Pas sur un vélo, mais dans une monoplace autour des 300 km/h. Le deuxième Olympiste du mois est en effet un pilote de Formule 1. Et j'aurais aimé vous parler d'un Français comme Mathieu l'a fait avec Marie-Divine Kouamé, vous annoncer que Esteban Ocon ou Pierre Gasly étaient champions du monde, ou vous dire que le titre de constructeur était pour l'écurie française Alpine. Mais non. Max Verstappen est venu remporter son deuxième titre de champion du monde, et avec ça, il mérite sa place d'Olympiste du mois. Après sa saison exceptionnelle, Max Verstappen a décroché son deuxième titre mondial consécutif à Suzuka le 9 octobre dernier pour le 18e Grand Prix de la saison. Moins de suspense que la saison dernière donc, qui s'était jouée jusqu'au dernier Grand Prix à Abu Dhabi avec la bataille Hamilton-Verstappen. Si son premier titre était entouré de controverses entre les dépassements de budget de Red Bull et la légitimité de sa dernière victoire aux Émirats Arabes Unis, cette année son titre semble être une évidence. Une évidence, mais pas sur le moment. Et oui, le moment était lunaire, puisque c'est le journaliste chargé de l'interview après course qui lui annonce sa victoire. Alors qu'il a franchi la ligne d'arrivée en pensant devoir attendre quelques week-ends de plus pour célébrer son titre, une pénalité sur le monégasque Charles Leclerc lui offre l'écart de points nécessaire à son deuxième titre mondial. Et pourtant, ce ne fut pas un début de saison facile pour le Néerlandais. Après ne pas avoir terminé le premier et troisième Grand Prix, Verstappen n'était pas bien parti pour la course au titre mondial. Le favori à ce moment-là était d'ailleurs Charles Leclerc, en tête du classement et en forme sur le début de la saison. Mais la course s'est vite inversée et Verstappen réalise une remontée exceptionnelle suite à trop d'erreurs du côté de Ferrari. Celui qu'on prédit déjà être au niveau de légendes comme Schumacher, Vettel, Senna ou encore Hamilton, rejoint la liste des doubles champions du monde à seulement 25 ans. 13 victoires dans cette saison 2022 après celle à Austin, il égale déjà le record co-détenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel alors qu'il reste encore 3 Grands Prix dans la saison. Il donne l'impression que peu importe de quelle position il part, son talent le ramènera à la première place ou au moins sur le podium. Alors qu'il vient de se positionner en pole pour le Grand Prix du Mexique, il s'apprête peut-être à décrocher une 14e victoire cette saison et par la même occasion, décrocher un nouveau record et être le seul détenteur du plus grand nombre de victoires en une saison.
Et c'est chose faite puisque Max Verstappen a remporté à la fin de ce Grand Prix du Mexique sa 14e victoire de la saison, en dépassant ainsi Michael Schumacher et Sébastien Vettel. Allez, on enchaîne. Comme à notre habitude, on va terminer ce podcast sur un débat et c'est Josué et la team de footeux de la rédaction qui vont nous parler du Ballon d'Or et de sa cérémonie qui ont eu lieu le 17 octobre dernier à Paris. Les gars, la parole est à vous.
Non, mais arrêtez.
Mais tu dis n'importe quoi.
On a le droit de pas être d'accord.
Je vais te rentrer aussi dans la gueule.
Tu veux toujours avoir raison.
Mes amis.
Ça, c'est des faux débats, ça.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débat du podcast d'octobre des Olympistes. Aujourd'hui, on va débattre sur la cérémonie du Ballon d'Or qui a eu lieu le lundi 17 octobre au Théâtre du Châtelet. Donc avec moi, pour parler de ça, j'ai Adrien, Floris et Thibaut et moi-même, Josué, qui animerait un peu ce débat. On a vu toutes sortes de récompenses. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Laquelle des récompenses vous a le plus marqué, toi, Adrien?
C'est Karim, quand même, la consécration, enfin, pour un Français. Ça faisait 24 ans qu'on attendait ça, et Karim, c'est amplement mérité. Il a quand même tué un peu la concurrence. Donc c'est une bonne chose pour la France, déjà, et pour Karim, ce qu'il mérite vraiment.
Ouais, je pense que Thibaut et Flou et Floris, vous aussi, c'est de toute façon la récompense qui est quand même ressortie de cette cérémonie.
Oui, tout à fait, exactement, il a tout dit.
Ouais, donc on en reviendra plus en détail là-dessus, mais je voudrais commencer d'abord par le Ballon d'Or féminin, remporté pour la deuxième année consécutive par Alexia Putellas. Qu'est-ce que vous pensez de cette récompense? Est-ce que pour vous elle est méritée?
Le Barça a fait une grande saison, et a quand même arrivé en finale, même s'il a perdu face à l'Olympique Lyonnais 3-1. Personnellement, Putellas a fait une grande saison. Et pour la première fois de l'histoire, une femme gagne deux fois d'affilée le Ballon d'Or, donc une consécration pour la joueuse espagnole.
Ouais, une consécration pour la joueuse espagnole, une consécration pour le Barça aussi. Parce qu'on sait qu'ils ont aussi remporté le trophée Copa avec Gavi. Là-dessus, toi Thibaut, tu penses quoi de ce trophée accordé à Gavi, 18 ans, le milieu du FC Barcelone?
Moi j'ai trouvé un peu surprenant le fait que ce trophée soit donné à Gavi, parce qu'on sait qu'il n'était pas forcément dans les favoris. Il s'est fait découvrir avec le Barça il y a un ou deux ans, et il a fait des très grands matchs. On sait qu'il a un énorme potentiel, un très grand niveau. Mais je pense, et j'ai remarqué que beaucoup de personnes sont d'accord avec moi, que par exemple en Bundesliga, on trouve des talents comme Jude Bellingham et Jamal Musiala, qui auraient mérité au moins un des deux, je pense, ce trophée, plutôt que Gavi.
Vous, Floris, Adrien, sur ce trophée Copa? Vous êtes du même avis que Thibaut ou pas trop?
Gavi, quand même, il a quand même été en équipe d'Espagne à 18 ans. C'est l'un des plus jeunes, même à 17 ans. C'est l'un des plus jeunes à y être. Même s'il n'a pas encore forcément le haut niveau. On l'a vu au Clasico il y a quelques jours, qu'il n'a pas été très présent ce match-là. Mais après, il y a aussi Camavinga, il finit deuxième. Il a gagné la LDC avec le Real. Il a fait quand même, quand il rentrait, c'était à chaque fois très intéressant. Donc pourquoi pas aussi Camavinga, qui peut-être méritait mieux. Mais c'est sûr que Musiala et Bellingham sont très très forts la saison dernière. Ils méritaient peut-être aussi plus.
On peut peut-être aussi parler de Nuno Mendes, peut-être, qui fait cinquième. Alors qu'on sait qu'avec le PSG, il a quand même fait une grosse saison. Le voir derrière tout ce monde-là, qu'est-ce que t'en penses, toi, par exemple, Floris?
Je trouve ça à la fois logique et illogique. Ça reste un défenseur et on sait que depuis des années et des années, les postes un petit peu plus défensifs sont moins mis en avant par rapport aux attaquants. Il a quand même fait une très bonne saison et je trouve ça très honorable de finir cinquième à ce trophée-là. Pour revenir également sur Bellingham, je pense qu'on sait tous qu'il a un énorme talent. Il réalise d'énormes matchs avec Dortmund, mais je pense que ce qui peut lui permettre de faire passer un cap, c'est peut-être de quitter le Borussia Dortmund et d'aller dans un club qui peut potentiellement gagner des plus gros trophées, comme par exemple la Ligue des Champions.
C'est vrai, quoi, il n'est pas encore dans un club qui peut lui permettre de jouer le très haut niveau de Ligue des Champions. Tu parlais de poste défensif, on peut passer au trophée Yashin qui récompense les gardiens. C'est Thibaut Courtois qui l'a remporté, Thibaut Courtois avec le Real Madrid qui a gagné la Liga et la Ligue des Champions. Je pense que là-dessus, Thibaut, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Courtois, c'est quand même une récompense plutôt méritée.
Oui, je pense que là-dessus, on va être tous très unanimes, parce que Courtois, là, depuis quelques années, il est quand même dans la meilleure forme de sa carrière. C'est, je pense, en ce moment, on va aussi tous être d'accord pour dire que c'est le meilleur gardien du monde, ou au moins un des meilleurs gardiens du monde. Il a porté le Real, la défense du Real, toute la saison. Toute la campagne de Ligue des Champions, il a été absolument incroyable. Et non, je pense que c'est très mérité pour lui de gagner ce trophée.
Ok, au niveau des gardiens, on peut parler peut-être de Mike Maignan. Je sais que toi, Adrien, le Lillois, c'est un joueur que vous adorez. Il est cinquième de ce trophée. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu être plus haut? Peut-être qu'il est un peu, pourquoi pas, sous-côté, Mike Maignan, en ce moment.
Peut-être qu'il a quand même gagné la Serie A avec le Milan AC l'année dernière. Et cinquième en gardien et 25e en classement général, c'est quand même un peu honteux, je trouve. Il aurait pu être au moins devant Edouard Mendy pour le trophée Yashin. Et là, 25e en classement général, il méritait au moins un top 20, voire 15. Donc franchement, peut-être un peu sous-côté. On verra cette saison. Bon, là, il est blessé. Il ne va pas faire la Coupe du Monde. Ça sera un coup dur pour l'équipe de France. Mais Mike Maignan a vraiment un très grand potentiel pour être au moins top 3 des meilleurs gardiens dans les prochaines années, ça c'est sûr.
Ouais, c'est bien. Toi, Floris, t'as quelque chose d'autre à rajouter sur le trophée gardien
ou... Non, assez d'accord avec ce qu'il a dit. Pour moi, le gardien derrière Thibaut Courtois, c'était Mike Maignan. Parce que bien évidemment, il y a les performances, les trophées remportés par les clubs. Et là, certes, Ederson, avec la première ligue, pouvait paraître un petit peu devant. Mais niveau performance individuelle, Mike Maignan, là, depuis déjà plusieurs années, c'est du très 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 haut niveau. Réalise des matchs XXL avec un nombre incalculable de parades et d'arrêts. Et oui, pour moi, je pense que Mike Maignan méritait une place un petit peu plus haute à ce classement-là.
Ouais, c'est vrai qu'il a donc fini derrière Alisson et Ederson qui font deuxième et troisième, sûrement avantagé par la Ligue des Champions. Je sais pas si Thibaut, t'avais quelque chose à rajouter là-dessus.
Si, moi j'avais quelque chose à rajouter, mais tant qu'on parlait de gardien français, moi j'aurais aimé te parler de Hugo Lloris, qui est un classement plutôt dommage, je trouve, au vu de sa saison et de ses performances. Parce qu'il finit dixième, donc dernier, avec seulement 9 points. Donc derrière des gardiens comme Yacine Bounou, qui a fait une très bonne saison avec Séville. Mais j'ai été quand même un peu surpris du classement d'Hugo Lloris. Et beaucoup de personnes étaient assez offusquées de le voir dixième.
Ouais, c'est vrai que Lloris, c'est un gardien qui est toujours plutôt régulier, mais qu'on ne voit pas forcément dans les tout meilleurs. On sait qu'il est toujours là, mais on le voit rarement dans le plus haut de l'affiche. Donc oui, dixième pour Lloris. Bon, par contre, il a quand même une régularité très 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 forte. Ça fait quand même plusieurs années qu'il est dans les 10 meilleurs gardiens du monde, je pense. Donc voilà, on le retrouvera à la Coupe du Monde avec les Bleus. On espère qu'il aura un meilleur classement l'an prochain en ayant gagné la Coupe du Monde. Et ensuite, on a le trophée Gerd Müller. Donc Gerd Müller, un ancien très grand attaquant allemand qui est décédé cette année. Donc le trophée a été renommé en son nom, qui récompense le meilleur buteur de la saison. Attribué à Robert Lewandowski qui chaque année gagne un trophée mais pas le Ballon d'Or. Qu'est-ce que vous avez à en dire sur Lewandowski?
Bah, c'est mérité, à chaque fois il empile les buts toutes les saisons et on sait que il y a un ou deux ans il méritait quand même le Ballon d'Or. Il aurait pu au moins avoir un Ballon d'Or, mais le Covid lui a privé de ce trophée. C'est dommage pour lui, maintenant ça va être compliqué avec Haaland qui commence à être stratosphérique et Messi et Neymar qui commencent à être en très grande forme. Ça va être plus compliqué pour lui de gagner ce Ballon d'Or. C'est dommage.
Ouais, mais il a toujours ce trophée de meilleur buteur. C'est toujours ça de prix pour le Polonais. Ensuite, on a le prix Socrates qui récompense le joueur qui a le plus œuvré dans le monde pour toute cause...
caritative, associative.
C'est ça. Et il a été pour Sadio Mané, le Sénégalais, qui a multiplié les hommes, notamment dans son pays, au Sénégal. Le joueur transféré au Bayern Munich qui remporte donc ce prix. C'est important, je trouve que c'est beau, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans une cérémonie qui récompense le football, d'attribuer quand même une part aux joueurs investis.
Ouais, non, tout à fait. Je trouve que c'est mérité pour Sadio Mané. Il a œuvré pour de nombreuses choses, principalement au Sénégal, son pays, avec notamment construction d'écoles, aide également au niveau alimentaire, etc., sanitaire. Donc plutôt mérité, important de récompenser dans ce genre de cérémonie et de ne pas oublier les joueurs qui réalisent de très très bonnes choses, pas seulement sur le terrain. Donc voilà, rien à dire de plus, mérité pour Mané.
Oui, après c'est sûr que les joueurs qui font ça, ils font pas ça pour les prix, pour gagner ce genre de prix, c'est sûr. Après, ça permet de mettre en valeur ce qu'ils font, c'est vraiment intéressant.
C'est parfait. Donc on félicite Sadio Mané. Et enfin, le trophée de club de l'année a été attribué à Manchester City devant Liverpool et le Real Madrid. Ça fait un peu parler parce que certains ont dit que le plus grand club était le Real Madrid, mais il me semble que selon les règles, c'est le nombre de joueurs, le club qui a le plus de joueurs nominés. Je sais pas ce que Floris, tu peux nous en dire là-dessus.
Non, bah là, pas plus de débat que ça. La règle est assez simple. Le club avec le plus de joueurs nominés remporte le trophée. Après, un léger doute concernant le fait que Liverpool et Manchester City ont eu 6 joueurs, joueuses nominés pour la cérémonie. Donc je ne sais pas exactement ce qui a permis de départager deux clubs. Il semble que ce soit le fait qu'il y ait une joueuse féminine qui soit parmi les nominés du côté du club de Manchester City.
D'accord. Moi, c'est un trophée un peu, j'allais dire, anecdotique. Il récompense quand même un club, mais c'est vrai que c'est pas un trophée hyper mis en avant dans cette cérémonie. Et on va maintenant en venir au Ballon d'Or masculin, qui avait un peu changé de règle cette année, qui on comptait la saison dernière, donc la saison 2021-2022. Et on avait le vote de 100 journalistes des 100 premiers pays au classement FIFA, pour éviter un peu des votes qui s'éparpillaient un peu n'importe où, on l'a vu les années précédentes. Donc c'est Karim Benzema, le Français, qui l'a remporté. Tu le disais tout à l'heure, 24 ans après Zidane en 98. Benzema, mérité, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus, Thibaut. Benzema, une saison énorme.
Oui, c'est clair qu'on peut difficilement remettre en question ce Ballon d'Or. Benzema, ça fait quand même plusieurs années qu'il est à un niveau absolument incroyable, un des meilleurs neufs, voire le meilleur neuf de ces dernières années. Il porte le Real Madrid, toute l'attaque du Real Madrid. Il est, comme ce sont les mots de Carlo Ancelotti, il réinvente le football en fait. Il joue un football collectif et il met énormément de buts et des passes décisives et il construit tout le jeu du Real Madrid. Je pense que c'est extrêmement mérité au bout de sa saison.
Est-ce qu'on peut parler peut-être la saison de sa vie pour Karim Benzema? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Adrien et Floris, mais pour moi, c'est la meilleure saison de sa vie.
Tout à fait, la saison de sa vie, et même, j'irais même plus loin, je dirais que ça faisait longtemps qu'individuellement, un Ballon d'Or n'avait pas autant impressionné. C'est-à-dire que sur les 4 compétitions remportées par le Real, il est 4 fois meilleur buteur. Il est élu meilleur joueur, il a fait des performances vraiment incroyables. Sur la campagne de Ligue des Champions, il réalise avec son total de 15 buts, il me semble, la meilleure performance derrière celle de Cristiano Ronaldo en 2016-2017. Mais ce qui est également à souligner, c'est qu'il a marqué 10 buts passé les phases de groupe, donc dans les matchs un petit peu plus difficiles, avec un petit peu plus de tension. Et puis là, au-delà des statistiques qui ont été évoquées au niveau du jeu, il a sublimé des joueurs. L'exemple le plus parlant est celui de Vinicius, qui a réellement été transformé par l'apport du joueur français et avec qui il arrive parfaitement à combiner.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé. Benzema a un trophée individuel pour un joueur extrêmement collectif, qui aujourd'hui, si le Real a gagné tout ce qu'il a gagné, Benzema, je pense que c'est quand même clairement l'atout majeur. Et comme tu l'as dit, il a permis de bonifier, que ce soit Vinicius, que ce soit Rodrigo, que ce soit même derrière des Valverde. Il a fait une très grande saison. Après, maintenant, on peut revenir un peu sur le classement derrière. On a sur le podium Mané et De Bruyne. Est-ce que pour vous, c'est normal? Est-ce que vous auriez vu d'autres joueurs sur le podium? Je sais pas, Adrien, toi, ce que t'en penses?
Bah, je trouve Thibaut Courtois, il finit 6e, je trouve qu'il méritait...
7e.
Il méritait au moins un podium vu sa saison incroyable. Il porte aussi le Real défensivement. En finale, il sauve un petit peu le Real Madrid de la Ligue des Champions. Et il méritait au moins un top 3, voire un top 4, même parce que c'était un peu compliqué de déboulonner les deux derrière Benzema. Donc au moins 4e, c'est dommage pour Courtois. Après, on sait que les gardiens, ils ont le trophée Yachin à côté, mais on sait que les gardiens dans le Ballon d'Or classique, ils sont pas très bien notés, on va dire. Il y a toujours une petite différence avec les attaquants, mais bon, un top 10 pour un gardien, c'est déjà ça, on va dire.
Ouais, c'est sûr qu'il l'a rappelé, le Belge inquiète gardien dans une cérémonie Ballon d'Or, c'est pas, vous n'êtes pas trop mis en avant. Est-ce que vous, Thibaut, Floris, il y a d'autres joueurs que vous auriez vu dans le top 3
dans le top 3, je sais pas, mais au moins dans le top 5, par exemple, je prends l'exemple de Vinicius, qui finit 8e, alors qu'il a fait la saison de sa vie, même si sa carrière est quand même plus courte que celle de Benzema pour le moment. Il est encore jeune, mais je trouve ça très sévère de l'avoir mis 8e, alors qu'il a fait une saison absolument incroyable, il a mis énormément de buts, Son jeu s'est considérablement amélioré depuis cette saison. Et il a marqué en finale de Ligue des Champions pour donner cette Ligue des Champions au Real. Donc je trouve que 8e, c'est quand même très sévère, même si c'est quand même un placement très honorable. Et voilà.
Ouais, Floris, je sais pas si toi. Moi, je vois aussi Vinicius. Vous auriez mis Vinicius devant Mbappé au Ballon d'Or ?
C'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que Vinicius a certes réalisé une énorme saison, mais Mbappé, malgré le fait qu'il y ait élimination par le Real assez rapide en Ligue des Champions, ça reste une saison qui a Mbappé où il surclasse totalement la Ligue 1, élu meilleur joueur, meilleur buteur, un nombre incalculable de buts, des performances en Ligue des Champions malgré que la campagne du PSG était courte, qui ont vraiment été impressionnantes, la vitesse, les dribbles, la finition, les passes décisives. Une saison de Kylian Mbappé, quoi.
Mais il porte le Paris Saint-Germain quand même l'année dernière, vu que Messi et Neymar n'ont pas répondu présent la saison dernière. C'est Mbappé qui a porté le Paris Saint-Germain, donc c'est sûr que c'est une très grosse saison. C'est quand même un peu mérité d'Mbappé d'être dans ce classement-là.
Ouais, c'est vrai que moi je l'aurais même vu presque plus haut. On a une saison à 49 buts, il me semble, toute compétition confondue pour Mbappé. Il a porté le PSG, comme tu l'as dit, parce que Messi et Neymar étaient un peu moins dedans l'an dernier. On le voit derrière des joueurs comme Mohamed Salah, par exemple, qui a fait une belle saison, mais peut-être statistiquement un peu moindre. C'est des choix des journalistes. On peut, si on redescend un peu dans le classement, on a Haaland 10e sur sa saison du coup à Dortmund, pas sur son début de saison à Manchester City. Est-ce que vous pensez que c'est un classement à la hauteur de sa saison? Trop haut, trop bas? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, j'aimerais d'abord juste revenir sur le cas de Mohamed Salah. Je trouve s'il y a bien un joueur dans le haut du classement qui, je trouve, aurait dû être un peu plus bas, c'est l'exemple de Mohamed Salah. Il a certes réalisé une bonne saison, même une très grande saison, mais Liverpool au final ne gagne ni la Ligue des Champions ni la Première Ligue. Mané a été un peu plus en vue que l'Égyptien, et quand on voit à côté des joueurs comme on a parlé, Mbappé, Vinicius, Courtois, je trouve que par exemple les trois joueurs que je viens de citer mériteraient d'être devant l'Égyptien.
C'est vrai. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et donc pour en revenir à Haaland, Thibaut, je sais pas si tu as quelque chose à nous dire sur le Norvégien.
Haaland, c'est un phénomène déjà, il faut le dire, il a fait quand même une saison absolument incroyable avec Dortmund. Après, dixième, je sais pas si je l'aurais mis aussi haut, parce qu'on rappelle que le Ballon d'Or maintenant c'est juste pour les saisons. Donc on peut pas compter tout ce qu'il a fait d'incroyable avec Manchester City depuis le début de saison. Donc dixième, je sais pas si j'aurais pu le mettre aussi haut si j'avais pu voter, mais il a quand même fait une saison fantastique et c'est un joueur incroyable.
Ok, si on descend encore un peu dans le classement, on a en 11e place Son, 12e Mahrez, 13e Sébastien Haller, qui avait fait une très belle saison en Ligue des Champions avec l'Ajax. Il est quand même très très bien classé dans ce classement pour un joueur qui joue dans un championnat plutôt mineur par rapport aux 5 grands championnats. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur l'Ivoirien.
Il a quand même été très fort en Ligue des Champions, quasiment meilleur buteur derrière Benzema dans cette phase de poule, parce qu'ils ont été éliminés très, très tôt l'Ajax, en 8e il me semble. Donc plus de 10 buts en quelques matchs de Ligue des Champions, c'est quand même très fort de sa part. Donc oui, un top 15, c'est pas immérité de sa part.
Moi j'aimerais bien rebondir, là on descend vraiment dans le classement, mais parler du fait que Christopher Nkunku soit 25e. Bon, c'est sa première participation à une cérémonie du Ballon d'Or, donc c'est déjà bien, 25e. Mais je trouve qu'il a mérité plus, surtout quand on sait qu'il a réussi à gagner une coupe avec Leipzig, ce qui n'était pas gagné. Il a réussi surtout une saison fantastique, où il a été élu meilleur joueur de Bundesliga en ne faisant pas partie de l'équipe du Bayern, ce qui aussi a souligné, vu que c'est plutôt rare. Que ce soit dans les buts, dans les passes décisives, Nkunku est toujours impliqué dans les actions et dans les matchs de Leipzig. C'est leur joueur phare, leur atout, le leader technique. Donc c'est vrai que je trouve ça un petit peu surprenant qu'il soit classé aussi bas.
C'est vrai qu'on retrouve Nkunku à la même position que des joueurs comme Darwin Núñez, Rüdiger, Kimmich, qui ont quand même fait une saison moindre que celle du Français. Donc ouais, t'as totalement de raison de rappeler qu'il est un peu bas pour moi. Je voudrais revenir aussi sur d'autres joueurs qui sont... Joue à Bernardo Silva, Phil Foden, qui ont fait quand même une saison avec City, qui gagne tous les trophées, que ce soit la BPL, et que ce soit la Première Ligue ou Ligue des Champions. Ils sont derrière des joueurs comme Kane, Ronaldo, Luis Diaz. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve ça un petit peu... pas vraiment normal de retrouver Silva et Foden aussi bas.
Bah aussi Nkunku derrière Harry Kane, c'est un peu scandaleux quand même. Harry Kane qui soit dans le top 30, c'est déjà pas mal. Donc le voir aussi haut, c'est quand même un peu dommage de le voir aussi haut, je trouve. Mais oui, c'est sûr, Núñez 25e. C'était Luis Diaz et Ronaldo top 20, c'est ça ?
C'est ça, Luis Diaz 17e et Ronaldo 20e.
Oui, Ronaldo 20e, bon, il a quand même un peu porté Manchester United, mais derrière le mettre derrière Nkunku, ouais, c'est peut-être un peu scandaleux aussi.
Après, je trouve, on remarque souvent, de la part des journalistes, même malgré le changement de règles cette année, que dépasser, on va dire, le top 10, top 15, les journalistes mettent en général les joueurs qu'on a l'habitude de voir et on a une certaine impression peut-être de négliger le reste du podium, de ne pas s'appliquer sur l'ensemble des 30 joueurs qui sont à classer. Donc c'est pour ça, à la fois c'est étonnant, mais ça ne l'est pas, puisque ce n'est pas la première année que des joueurs se retrouvent très bien classés malgré des saisons bonnes, mais sans être vraiment impressionnantes, et qu'à l'inverse, des joueurs réalisant de grandes saisons se retrouvent pas forcément bien classé.
D'accord. Je sais pas si t'avais quelque chose d'autre à rajouter, Thibaut, sur cette deuxième partie de classement.
Non, pas spécialement. Si, parce que cette deuxième partie de classement, moi j'aurais plus certains joueurs qui sont dans le top 30 à remettre en question, comme par exemple on parlait de Darwin Núñez, qui a été impressionnant l'an dernier en Ligue des Champions, mais de là à le voir dans ce top 30, à la place de certains autres joueurs que personnellement j'aurais préféré y voir, je trouve ça dommage.
D'accord. Bon, c'est une cérémonie, au final, le gagnant est quand même mérité. On verra l'an prochain si Benzema peut réussir à le gagner deux fois de suite. Pourquoi pas peut-être Mbappé aussi pour les Français. Ça va aussi dépendre grandement de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que la Coupe du Monde va quand même grandement jouer dans le prochain Ballon d'Or.
Bah, c'est sûr. Si Messi arrive enfin à la gagner, vu son début de saison avec Paris, s'il continue comme ça en deuxième partie de saison, ça va être compliqué de lui laisser échapper ce Ballon d'Or encore. Donc après, Haaland, pareil, il sera pas à la Coupe du Monde, mais s'il empile les buts à chaque match, ça va être une bataille féroce avec aussi Neymar aussi.
Alors, tout à fait, les années Coupe du Monde sont des années où il est impossible de prédire le gagnant du Ballon d'Or, surtout encore plus là en sachant que ça joue sur une saison, donc il reste encore pas mal de mois de compétition avec notamment la Ligue des Champions. Et je pense que déjà après la Coupe du Monde, en fonction des performances de chacun, individuelles et collectives, on pourra déjà peut-être distinguer certains noms. Et oui, je pense que par contre, concernant Haaland, il va falloir vraiment qu'il réalise une énorme saison s'il veut gagner Ballon d'Or, parce que la Coupe du Monde risque quand même d'être à son désavantage, puisqu'il n'y participe pas.
C'est sûr. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette cérémonie. On se donne rendez-vous dans un an, pourquoi pas, pour débriefer le prochain Ballon d'Or. On a la Coupe du Monde de foot qui commence dans un mois. Et la saison football va
être
très remplie.
Ah, ça va faire bizarre. Hein. Première c'est Coupe sûr. Du Monde en hiver, ça risque de changer un petit peu les habitudes. Mais bon, c'est malheureusement l'évolution du football où l'argent dicte un petit peu,
c'est
un
dommage. Petit peu tout. On ira au bar en doudou, non ? C'est dommage.
C'est ça.
Ouais, sur ces belles paroles, Adrien, je vais vous remercier, messieurs. Merci Thibaut, merci Floris, merci Adrien.
Merci Josué.